Philippe Bataille, bonjour.
Bonjour.
Je voudrais te demander de nous expliquer ce qu'est la discrimination indirecte à partir d'un cas que tu as étudié dans des conditions très précises, à la demande d'un syndicat, et que tu nous expliques tout ce processus qui va nous permettre de mieux comprendre ce qu'est la discrimination indirecte et aussi qu'est-ce qui se passe une fois qu'on l'a établi dans une institution, une entreprise, une organisation. Donc, si tu peux raconter cette expérience de recherche, ce serait très précieux.
Michel, le cas d'Alès, au fond, est une étude. C'est une figure du racisme que nous avons investi en cours de recherche au moment, et c'est ça qui s'est passé avec la CFDT, qui était un partenaire de recherche. C'était au fond une invitation à venir comprendre comment opérait le racisme au travail dans un moment où nous avions à la fois ce qu'on peut appeler des discriminations directes, institutionnelles, par exemple les emplois fermés aux étrangers, des situations où objectivement des populations ne pouvaient pas arriver au travail, et puis en même temps, c'est ça qui apparaissait de plus en plus, des Français qui passaient toutes ces barrières institutionnelles de l'interdit du travail, du permis de séjour, du permis de travail, de la situation de droit en quelque sorte, disposaient de tout cet éventail et donc de la nationalité française. Et pourtant, quand on regardait une entreprise du type entreprise de mécanique qui faisait de la sous-traitance pour des grandes entreprises d'automobiles, sur des entreprises de 400 salariés, de 600 salariés, à vue de nez, on avait l'impression d'être dans le laboratoire de pharmacie avec que des blancs, pas un noir, pas un enfant de l'immigration, alors que le lycée professionnel qui préparait à ces métiers avait à l'inverse des populations importantes, voire des classes entières, d'enfants nés d'immigration français et qui n'accédaient ni au travail et bien souvent pas au stage. Et dans la figure, personne ne nommez rien.
Donc, si je caricature, nous sommes dans une situation où il y a d'un côté le lycée professionnel avec des enfants issus de toutes sortes de parties du monde, d'un côté, et pas très loin, l'entreprise qui, elle, est totalement monocolore.
C'est encore plus figuré que ça. Un lycée professionnel d'État avec les enfants d'immigrés susceptibles d'être candidats à des emplois, n'accédant même pas au stage, qui bien souvent était dans la bascule du contrat à durée indéterminée, et à côté un lycée technique privé qui lui retrouvait les enfants des ouvriers en place dans les entreprises de mécanique en question, se formait, trouvait directement accès au stage et au contrat à durée indéterminée, avec le même métier, la même formation, simplement un lycée d'État et un lycée technique privé. Il y avait un accord ou plusieurs accords entre des entreprises, vu cette fois-ci, et c'est là où nous élargissons en quelque sorte la figure, vu à l'échelle du bassin d'emploi, qui est aussi un bassin de formation, qui est aussi une ville, en circonstance Alès, qui est aussi avec des périphéries, voilà. Et une trace de l'immigration forte au moment de la fin des mines, parce que c'est un bassin minier, qui, se reconvertissant dans la mécanique, a permis la reconversion de quelques-uns et pas de tous, les migrants eux-mêmes, immigrés, ne retrouvant pas forcément la place de la reconversion. Et leurs enfants, touchés par la même pénalité, à savoir l'origine étrangère, la couleur de la peau, et ça finissait par la mauvaise adresse, c'est-à-dire ne pas être dans le bon établissement, être orienté différemment, ne pas avoir accès à la dimension privée qui était catholique, et à la fin, pas à l'emploi.
Donc nous sommes à Alès, dans cette ville anciennement minière, avec un taux de chômage très élevé, et donc des enfants de l'immigration qui ont beau passer par le système scolaire, lycée technique, qui se retrouvent exclus de facto de l'emploi dans cette usine.
Discrimination.
Dans cette usine, donc on se dit, et donc à ce moment-là, tu es alerté par un syndicat.
Alors ça, c'est effectivement la chose la plus importante. C'est la manière dont les chercheurs, au fond, ont été invités à chercher, c'est-à-dire a trouvé à la fin, sans du tout le savoir au départ, à savoir cette image d'un système sans acteur, idéologique, éventuellement même pas un vote Front National plus marqué qu'ailleurs, et pourtant une situation locale complètement cristallisée, avec des crispations qui sont aussitôt des choses qu'on retrouve sur l'urbain, des images aussi d'inquiétude, enfin voilà, la menace, la peur. Bref, on est dans cette figure où le racisme n'est pas idéologique, c'est-à-dire n'est pas avec des acteurs qui portent l'intention de manière explicite et peuvent le décliner peut-être même jusque dans des lois, par des jeux parlementaires d'un type ou d'un autre. Nous sommes dans cette figure où le racisme, sans donner son nom, sans se nommer, pourtant agit, c'est-à-dire dans un monde où il y a même des figures de l'antiracisme, les syndicalistes, qui voient bien ce qui se passe, mais qui ne le comprennent pas et surtout ne parviennent pas à s'y opposer, au risque sinon d'être eux-mêmes taxés d'acteurs idéologiques, politiques, n'ayant pas leur place dans une activité syndicale, voire dans une expression du monde du travail.
Donc, l'équipe de recherche que tu diriges est sollicitée par les syndicats.
Le résultat, c'est la capacité d'entrer dans l'entreprise elle-même à l'invitation des syndicalistes et au fond de définir nos méthodes de recherche, c'est-à-dire d'être assez libre dans la démonstration qu'on veut faire. Il ne s'agit pas de prouver qu'il y a du racisme, il s'agit de prouver qu'il y a la discrimination à l'embauche. Et ce système de discrimination à l'embauche peut être mis à jour. Et au moment de mettre à jour la discrimination à l'embauche qui repose sur des discriminations indirectes, sans les nommer, sans désigner, mais qui pourtant fonctionnent avec efficacité lorsqu'il s'agit de décider sur un seul, montre bien cette figure systémique du racisme, c'est-à-dire comment tout un système s'abat sur un seul individu lorsqu'il est ramené à des représentations sociales ou à des imaginaires, à des peurs, enfin voilà, tout est ouvert à une altérité contrariée, à des habitudes qu'on n'a pas, et lui empêche ce qu'on attend de lui, à savoir l'intégration, et en particulier par le travail.
Alors qu'est-ce qui s'est passé? L'équipe de recherche, avec les syndicalistes, vient, enquête, et démontre, si je simplifie à l'extrême, que c'est un système qui aboutit inéluctablement à une discrimination des immigrés ou des enfants issus de l'immigration. Ça commence au lycée technique, enfin, au niveau de la profession, les stages, mais surtout au moment des embauches. Et on comprend donc que l'entreprise a sa part de responsabilité, puisqu'elle pourrait embaucher autrement. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que tout le monde dit « ah bah oui, c'est vrai, c'est pas bien »
C'est plus que ça. Au final, je me retrouverai dans le bureau du patron, qui n'était pas du tout à l'aise, qui était à Annecy, qui fermera toutes les portes capitonnées de son bureau, et qui me dira « maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Faisant sortir les syndicalistes, on se retrouve à deux. Véritablement.
Le chercheur et le patron d'entreprise.
Le chercheur et le patron d'entreprise me demandant de venir le voir au vu des résultats qui commençaient à être publiés. Et là, ce qui s'est passé faisait écho exactement à l'interpellation syndicale initiale. C'est-à-dire, au fond, une conscience citoyenne. On appelait à ce que le patronat peut investir, à savoir une responsabilité. Et effectivement, de saisir les résultats de l'enquête, de demander très clairement que ce ne soit pas une focale en tant que telle sur une enseigne, une entreprise ou même un lieu ou une situation, une activité économique, voilà, de sortir de cette logique de l'accusation et de la défense pour investir l'objet lui-même, à savoir les discriminations à l'embauche. Et il y a eu, dans le prolongement de cette recherche, une remise en cause des accords qui étaient établis entre le lycée technique privé et plusieurs entreprises, dont celles qu'on avait le plus investies par nos travaux, pour remettre en cause ce monopole du lycée privé dans l'accès des élèves à des stages dont on savait qu'à la fin, ils favorisaient l'accès au contrat à durée déterminée. Et les cartes ont été rebattues à l'échelle du bassin d'emploi, chambre de commerce, avec l'implication de plusieurs chefs d'entreprise. Et ça correspond historiquement au moment où un autre syndicat que celui avec lequel nous travaillions à l'époque était la CFDT, la CGT elle-même s'était emparée de ces questions, mais surtout le MEDEF, en tant que syndicat patronal, Il y a eu exactement à ce moment-là, et d'ailleurs avec des invitations très concrètes, hein, nous avons souvent suivi, une mise en réflexion de ce constat objectif fait des mécanismes silencieux mais efficaces de la discrimination à l'embauche, avec toutes les conséquences sociales, politiques, j'ai envie de dire humaines, pour ceux qui avaient à les vivre, aussi bien les parents que les enfants, mais aussi les citadins, enfin voilà, ces endroits touchés, il y a eu de la part du patronat une réaction qui d'ailleurs a trouvé son nom, la diversité, éventuellement une capacité à travailler avec des concepts nouveaux, ou en tout cas à les mettre en discussion dans le débat public, comme le multiculturalisme, en mettant aussi un certain nombre d'actions, des chartes, des engagements, voilà. Cette dimension, l'entreprise citoyenne, qu'on oublie un peu aujourd'hui, prise probablement dans d'autres mondes, mais à l'échelle des territoires, j'ai envie de dire à l'échelle des parkings des ouvriers, c'est-à-dire de rentrer dans le parking de l'entreprise et de se comporter en citoyen et non pas en voisin hostile ou en client politique intéressé.
Les personnels en place dans l'entreprise en question, la plus centrale dans ce récit, les personnels ont accepté très volontiers de jouer ce jeu ou ça a suscité des débats, des tensions, des difficultés?
J'ai envie de dire les deux. L'engagement de ceux qui étaient les plus en pointe a fonctionné. Il y a eu véritablement un travail de clarification de tout ce qu'il était possible d'atteindre comme étant l'obscur dans lequel se nichait au fond l'intention discriminatoire, avec un résultat d'impression de racisme, puisqu'on était dans la limite de l'apartheid entre les blancs d'un côté et les enfants des migrants d'un autre, tenus par une barrière qui, si elle n'était pas institutionnelle, était bien systémique, au sens d'une profusion d'acteurs qui, sans déclarer leur intention raciste, arrivaient malgré tout à ce résultat. Et voilà, on ne peut pas revenir en arrière quand on a touché ça. En même temps, les ordres sont les ordres, les logiques sont les logiques. Probablement n'y a-t-il pas eu assez d'investissements à cette époque. Le résultat est le même que partout ailleurs, c'est-à-dire au fond, une fuite des migrants les plus avancés, les plus diplômés, les plus en capacité d'être créatifs et innovants, qui sont partis ailleurs. On a une situation où il n'y a pas eu rencontre entre les acteurs citoyens revendicatifs de la ville, autour des politiques de la ville par exemple, les associations, et les acteurs sociaux du travail à proprement parler. Je veux dire, on est resté sur des niveaux institutionnels.
Je trouve que c'est très éclairant comme expérience, parce que, un, on voit le rôle des sciences sociales, qui aide les acteurs, et divers acteurs, à mieux comprendre une situation, un problème, et qui, sans du tout se transformer en acteur, le chercheur n'est pas ni un syndicaliste, ni un chef d'entreprise, mais enfin, travaille avec les acteurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a un exemple vraiment lumineux de système de discrimination institutionnelle ou indirecte, qui est, dont le cœur, c'est cette entreprise, peut-être d'autres, mais celle dont on vient de parler surtout, mais un système qui inclut aussi des établissements d'enseignement et qui n'est pas indépendant de systèmes nationaux plus larges, le syndicat patronal, la CFDT. Et donc, mais la dynamique qui se met en place, c'est à partir de la compréhension de ce qu'a été ou de ce qu'était cette discrimination, des changements qui vont être introduits pour la contrer ou en tout cas l'affaiblir.
Exactement. Et c'est vraiment la figure de l'acteur et du système. Le système agit en toutes circonstances, mais il peut être parfaitement silencieux, c'est-à-dire qu'il dilue les acteurs. Mais la franchise, en quelque sorte, ou l'affranchissement d'un acteur interne au système, syndicaliste, intervenant dans des discussions, dans des conflits, dans des mobilisations, mais ayant besoin de retrouver sa légitimité de base, dans les circonstances, l'adhésion de ses collègues, enfin voilà, le temps que ça a marché, il y a eu des transformations et des changements. Mais si l'acteur s'affaiblit, ce qui s'est passé, ou change lui aussi, eh bien, ma foi, le système retrouve ses capacités de silence.
Dernière question. Au moment le plus crucial, c'est-à-dire au moment où, si je peux dire, la vérité éclate au grand jour et où les acteurs sont confrontés à la vérité, à la réalité, à l'analyse sociologique, est-ce que dans ce contexte-là, on a vu surgir des expressions verbales de racisme, qui n'existait pas avant. Autrement dit, est-ce que ça a été un moment qui a suscité des explicitations racistes ou pas du tout?
Oui. Oui, et même pas un système de défense, d'opposition, front contre front, idéologie contre idéologie, en justification morale. Je pense à deux, trois que nous interviewons à un moment donné, chambre de commerce, effectivement, professeurs dans des établissements scolaires, et qui justifient en quelque sorte leurs pratiques comme étant les seules qui ne seraient pratiquées. Et les uns renvoyant, et effectivement, après la guerre d'Algérie, aux conditions de la migration et de l'arrivée des pieds noirs mélangés avec des Marocains, bref, tout ça devient très confus et s'oppose comme une espèce de bloc dont on sent qu'il ne recule au fond que s'il perd de sa légitimité ou si il y a une barrière légale qui se franchit. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une dénonciation de la convention entre un établissement privé et des entreprises privées, au détriment en flagrant, comme tu le dis, de la preuve apportée du résultat en termes de discrimination, de racisme et de conséquences sur la ville. Voilà. Nous étions typiquement dans cette situation où les candidats n'envoyaient plus leurs lettres de candidature en réponse à des embauches, sachant par avance qu'ils ne seraient pas traités et pour s'éviter une humiliation supplémentaire. C'est-à-dire qu'il y a aussi intégration de la pratique du racisme par ceux qui sont directement victimes. Et là, on peut relancer aussi du côté de la victime, en quelque sorte, de transformer la victime en acteur. Et c'est ça qui a été une des difficultés, peut-être, dans la recherche que j'évoquais il y a un instant, c'est la rencontre des acteurs au fond citadins, pour aller vite, jeunes, enfin marqués par leur expérience sociale, et besoin de relais pour arriver au travail notamment, mais pas seulement, et les acteurs sociaux du monde du travail qui, au fond, ont entretenu une discussion à l'intérieur des conflits classiques, éventuellement du patronat et du monde ouvrier, faisant que le MEDEF s'est plutôt emparé de cette question et est plutôt devenu un partenaire des chartes de la diversité et effectivement de la lutte contre les discriminations, mais à l'échelle des territoires, des villes et donc des expériences individuelles, des carrières, disons, des jeunes, ma foi, il n'y a pas eu grande amélioration.